Est-ce que vous pensez avoir été exaucé?
Oui.
Vous serez à une heure. Alors, ce que je vous avais demandé, c'était la lecture, premièrement, de Matthieu 13, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Et je crois que c'était bien nécessaire, parce qu'il y a toute espèce de théories dans les églises qui sont données et qui ne tiennent pas compte du tout de ce que nous avons vu pour apporter une doctrine saine et logique. Seigneur, nous voulons te demander que nous ne pressions pas nos idées, mais que nous laissions nos pensées formées par ta parole et que ta grâce soit sur nous ce matin. Amen.
Amen.
Donc, nous vous avons dit que l'évangile de Matthieu était surtout rempli des discours du Seigneur. L'un de ces discours, c'est celui que vous trouvez au début, dans le sermon appelé « Sermon sur la montagne ». Et puis, ensuite, il y en a d'autres, mais en particulier le chapitre 13 de Matthieu. Jésus, pour intéresser et captiver ses auditeurs, les faire rechercher, les amener à suivre ses pensées, avait ce genre de parler en parabole. Et puis, alors, ensuite, quand il rentrait avec ses disciples, les disciples pouvaient lui demander ce qu'il n'avait pas compris. Et Jésus, dans son amour et dans sa grâce, le leur explique. Et c'est très drôle, quand vous arrivez à la fin de ce chapitre, il leur demande, vous avez bien compris?
Oui, ils ont tout compris.
Oui, mais nous avons bien compris, ils n'ont rien compris. Alors, je voudrais pas quand même aussi que vous partiez de ces trois journées en ayant l'impression d'avoir tout compris et puis d'aller dire des choses qui ne sont pas du tout ce que nous avons cru découvrir dans l'Écriture. Je lis depuis le chapitre 13. Ce même jour, vous suivez alors, hein, parce que vous devez, quand vous lisez la parole, je vous l'ai dit souvent à ceux qui sont habitués, vous lisez à haute voix, si possible, pas ici, mais dans vos chambres, à haute voix sans crier, bien sûr, pour ne pas déranger les autres, mais parce que vous l'entendez, que vous lisez à haute voix, vous l'entendez, ça entre par vos oreilles, ça rentre par vos yeux, et que par la fort, et ça pénètre dans vos cœurs, et de vos cœurs, ça doit aller dans tous vos membres pour influencer votre existence. Les pensées, les regards, ce que l'on écoute, ce que l'on n'écoutera pas, ce que l'on touche, et puis ce que l'on aime, et les lieux où nos pieds nous conduisent. Il faut que la parole ait une influence sur l'homme tout entier, sans ça avoir juste des connaissances bibliques, savoir les 10 commandements, savoir aussi les saines doctrines, ça ne sauve personne. Il y a plein en enfer de gens qui avaient la saine doctrine, mais qui n'ont jamais eu la vie que doit donner la doctrine. Alors, faisons bien attention. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Vous voyez le tableau, hein, et ceux qui sont allés dans ces pays-là peuvent mieux les vivre. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Est-ce qu'il s'était assis une barque, le Seigneur? Non. Comme toute chose, ce qu'il a eu, c'était des choses empruntées. C'était la barque de Pierre. Toute la foule se tenait sur le rivage. Donc, la chair du Seigneur n'était plus là, une pierre sur la montagne, il était assis, mais il était assis dans une barque. Il avait toutes ses troupes. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, alors la première parabole, vous trouverez, vous en avez trouvé combien dans ce chapitre? Il y en a sept. Sept, c'est toujours un chiffre divin, un chiffre complet. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et vous voyez, comme on semait de ce temps-là, il n'y avait pas de machine, alors on avait le sac, hein, et puis le grain dans le sac, et puis on jetait le grain comme ça. Une partie tomba au bord du chemin, le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et les mangèrent. Est-ce que les semences qui sont tombées au bord du chemin ont produit quelque chose? Non, elles ont été dévorées par qui? Par les oiseaux. Alors, souvenez-vous bien de ça. Les oiseaux. Alors, qu'est-ce que peuvent représenter les oiseaux? Pour nous, si on y va qu'avec notre imagination, c'est céleste, les oiseaux, ça vole. Non, c'est pas toujours céleste. Les oiseaux vinrent, elle est dévorée. Il faut que le Seigneur nous donne l'explication et que vous soyez assez humble à l'école de Jésus pour admettre ce que Jésus dit au sujet des oiseaux. Et vous allez être surpris. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Vous voyez, quand on a été dans ce pays-là, on voit qu'il y a il y a des endroits pierreux, il y a un peu de terre, il y a de la pierre, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et la semence leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alors, ça est monté tout de suite. C'est la deuxième semence. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Donc, il faut avoir des racines. Il ne faut pas avoir des racines, mais il faut avoir des racines pour que ça tienne. Verset 16. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et les étouffèrent. Alors, sur trois terrains qui ont reçu la semence, ces trois terrains sont inutiles. Ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Vous savez ce qu'est la bonne terre? C'est celle qui a été préparée, hein, qu'on a labourée, qu'on a hercée, etc. Elle donna du fruit, et là, il y a des coins qui donnent 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Ça ne donne pas toujours la même chose. Puis Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc, il faut maintenant chercher à comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire. Il veut que son enseignement leur reste. Alors, il leur raconte la parabole, c'est une histoire imagée, et puis maintenant, il voudrait maintenant qu'ils aient des convictions. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner? Les disciples s'approchaient et dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi tu ne prends pas un autre langage? Jésus leur répondit, parce qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alors, ils sont étonnés, donc le Seigneur ne veut pas que tous entendent de la même manière, car on donnera à celui qui a. Si tu es venu ici avec un cœur ouvert, si tu es venu ici avec la soif d'entendre la parole, tu es celui qui a. Et il te sera donné. Mais si tu es venu uniquement par curiosité pour voir ce qui se fait là-dedans, hein, tu repartiras avec une perte. Je ne dis que ça, mais que ce n'est pas nos trois amis qui sont arrivés. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si tu n'as qu'une petite religion, plus que tu t'intéresses à savoir qu'est-ce que ça peut être, ceci et cela, eh bien, tu ne vas pas recevoir une bénédiction. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni comprennent. Il y a des gens qui entendent depuis des années et ils ne comprennent pas. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Parce que quand le Seigneur, qui est un Dieu d'amour et qui veut sauver les âmes, s'aperçoit à un moment donné qu'on se moque de lui et qu'on n'en veut pas, il n'a pas de temps à perdre. Il a assez à faire. Eh bien, il permet un jugement, et c'est ça qui est terrible. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et les juifs ont entendu de leurs oreilles le temps d'Ésaïe, et vous ne comprenez point. Parce que ils n'obéissent point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc ce qui compte, c'est le cœur. Est-ce que notre cœur est sensible quand on est en face de la parole? Est-ce qu'on se sent concerné, comme on l'a dit dans notre dernière retraite? Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous vous sentez concerné? Soit pour souligner une qualité, ou soit pour vous montrer un défaut et un péché dont vous devez vous juger. Il faut un cœur sensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Et qu'est-ce qu'ils avaient pour leur expliquer? Qui était là pour leur expliquer? Le Seigneur lui-même. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Ils ne veulent pas voir. Et il y a beaucoup de gens qui entendent, hein, on leur parle, mais ils ne veulent pas voir. Et puis, ils ne veulent pas entendre de leurs oreilles. Alors, ils ne comprendront pas de leur cœur. Pourquoi? Ben parce qu'ils se sont endurcis et il n'y a plus de conversion pour eux, ni de guérison. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Tu te moques de Dieu, tu résistes à l'Esprit qui te parle, qui te montre dans quelle situation tu es, et c'est une des terribles choses, c'est quand Dieu nous juge et ferme la porte. Et nous avons des exemples, un en particulier d'un roi qui a fermé ses oreilles à l'appel de Moïse, comment s'appelait-il, le pharaon d'Égypte, et qui disait toujours qu'il allait les laisser partir, et ne les laissait pas partir. Alors, à un moment donné, il lui a dit, ben, c'est assez. Tu as endurci ton cœur 4 fois, et les 3 dernières fois, c'est Dieu qui a endurci ton cœur. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Alors là, il parle à ses disciples, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Parce que ces disciples, ils ont tout quitté, ils ont quitté leurs travaux, hein, ils ne sont plus occupés du travail de pêche du père ou de la mère, ou de leur société, de navigation, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Et même un homme qui avait une très belle position, qui était âgé, Matthieu, celui qui a écrit l'évangile, avait quitté. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Vous vous rendez compte? On attendait le Messie qu'il était là. Alors, les multitudes l'avaient attendu et ils auraient voulu être là, le voir pour croire. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alors, c'est ça qui nous rassure. L'enseignement que je vous donne, c'est pas le mien. C'est le Seigneur qui vous parle. Et croyez-le bien. Vous, qui avez lu la parabole, et je sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé à vous demander de relire ça, parce qu'on les a déjà étudiés. Vous, donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Donc, la parole qui nous parle de ce royaume qui aura comme roi qui? Le Seigneur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est le qui règne, mais c'est son fils qui est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, qui c'est le malin? C'est ça. Viens et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Quand on ne la comprend pas, on est venu, on ne comprend rien. Alors, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, il ne l'a pas compris. Un chemin qui est fait, c'est dur. Donc, la semence n'entre pas. Elle reste sur le bord et elle est victime des oiseaux du ciel qui viennent la manger. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oh, on est allé à cette réunion, on a eu de la joie, on chantait des beaux cantiques, il y avait de la musique, il y avait vraiment, on avait du fun là-dedans, et puis on loue le Seigneur et puis on est entraîné, n'est-ce pas? Puis on nous dit que si on s'avance, bien, on aura la grâce de Dieu et qu'on sera sauvé. Il suffira d'écrire une carte, de la signer, de mettre son adresse, parce qu'ils n'ont pas encore compris le piège des chrétiens, parce qu'on veut aller les trouver pour augmenter notre église. Hein. Une fois qu'on aura leur adresse, on ira leur faire des visites pour finir de les convertir et de les amener chez nous. Mais comme on veut maintenant être très nombreux, eh bien, au lieu que ce soit qu'une église qui demande un prédicateur, on se met d'accord, même si on ne se voit pas les autres jours, on se met d'accord en toutes les églises pour pouvoir soutenir et louer la plus grande salle et que tout le monde paye quelque chose. Hein. Alors, il nous faut des moyens qui soient adéquats et modernes. Hein. Alors, donc, on se met ensemble et puis on annonce l'évangile. Mais il n'a pas de racine, il la reçoit aussitôt avec joie, il y a de la joie, il y a une bonne ambiance, on se plaît, mais il n'a pas de racine en lui-même, ça passe à côté. Il manque de persistance, il dit, ben oui, je suis venu ce soir, mais demain, j'ai déjà des rendez-vous demain. Ma blonde, qu'est-ce qu'elle dirait ça? Hein? Mais ça ne m'empêchera pas de me convertir ce soir. Mais demain, je vais chez ma blonde. C'est ça que nous vivons, mes amis. Je vous le dis peut-être pour la dernière fois. Mais c'est cela que nous vivons. Une évangélisation facile qui doit être acceptée. Alors on reçoit la parole avec joie. Il faut qu'il y ait de l'ambiance. Il faut pas que ça soit plate. Hein? Comme dans certaines églises. Il manque de persistance et dès que survient la tribulation ou la persécution, et ça vient vite, hein? Quand on vous demande quand vous rentrez à la maison, je suis allé je suis allé dans un milieu évangélique.
Quoi?
Toi, bon catholique, tu vas dans un milieu évangélique, tu nous trahis, etc. La persécution commence immédiatement qu'on parle. Une persécution commence, alors on est des persécutés pour le Seigneur, à cause de la parole. Et il trouve une occasion de chute. Alors on ne revient plus. Ou bien si on rencontre le pasteur, on change de trottoir. Pour avoir pas besoin de s'allier et de répondre à ces questions. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, tant qu'il entend, mais qui, en dessous des soucis du siècle, il est venu en plus ici. Moi, je me souviens d'un frère qui était directeur de métaux précieux et ça, en Suisse, la société de banque suisse, qui me disait, moi, quand j'arrive à la Réunion, j'ai la tête pleine de chiffres. Une bonne préparation. Alors, on est plein des soucis des siècles et de la séduction des richesses, et tout cela est tout. La parole et la rende infructueuse. Ça passe. On dit c'est pas possible. Puis alors, vous avez le verset 23, qui est-ce qui explique tout ça? C'est moi? Non. On lit avec prière. C'est ça qu'on appelle lire avec prière. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, donc il est touché, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Tout le monde ne donne pas de la même mesure, le Seigneur ne nous a pas donné à tous la même mesure. Alors, après cette première parabole, le Seigneur en donne une seconde, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et dit, le royaume des cieux, et ce serait très frappant, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Habituellement, il est parlé du royaume de Dieu, mais le royaume des cieux, hein, pourquoi? Le royaume de Dieu, alors, il devait s'établir sur la terre par qui? Par Jésus. Mais, comme il ne peut pas s'établir sur la terre, pour l'instant, c'est le royaume des cieux. Hein. Ce qui est dans les cieux, ce qui devrait pouvoir être manifesté. Le royaume des cieux, il n'a pas de réalité sur la terre, hein, le royaume des cieux, pour l'instant. Il n'a vraiment pas de réalité, c'est le royaume des cieux. Il est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il y a eu une bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, vous voyez qu'on retrouve des gens qui dorment, son ennemi vint, donc le semeur a un ennemi qui vient, il sema livré. Livré, c'est une plante qui ressemble exactement à la vraie plante, hein, au blé. Il sema livré parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe fut poussée et donné du fruit, livré parut aussi. Alors les serviteurs du maître, tout à coup, eux qui auraient dû surveiller, ils n'ont pas surveillé, hein. Ils ont laissé les choses se faire. Parce que s'ils avaient été à leur place, s'ils avaient surveillé, ils auraient pu empêcher. Mais les serviteurs constatent que l'ivré a été semé et ils viennent en parler au maître. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton sang? D'où vient donc qu'il y ait l'ivré? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions pour l'arracher? Ah, ils veulent travailler maintenant, hein. Ils sont réveillés, ils voient que c'est le mélange, mais ils ont la prétention de pouvoir arracher, livrer, pour délivrer, livrer du bon, pour délivrer le bon grain de livrer. Verset 29. Non, dit-il, voyez la sagesse humaine, de peur qu'en arrachant l'ivry, vous ne déracinez en même temps le... Et c'est exactement ce que l'Église a fait pendant des siècles. Ils ont voulu arracher l'ivré, et puis ils arrachaient l'ivré chrétien, et quitte à l'économiser après, hein, comme l'Andart. On la brûle, puis après on dit que c'est une sainte. Hein. Alors on fait un autre commandement. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivré, vous déraciniez en même temps le blé. Quand on a voulu ôter ce qu'on appelait les hérétiques dans l'Église, qui ne suivaient pas exactement les enseignements de l'Église, qui n'étaient plus les enseignements bibliques déjà, eh bien, on risquait de se tromper. Alors, quel est l'ordre du Seigneur? Laissez les croître ensemble. L'un et l'autre. Jusqu'où? Jusqu'au temps de la moisson. Donc, ça veut dire que, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce que ça, le temps de la moisson, il y aura parmi les chrétiens des gens qui sont de vrais chrétiens et d'autres qui sont de faux. Ils ont l'apparence, mais ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils ont été semés par qui? Par Satan, ce sont les fils du malin, mais qui ont toutes les apparences, comme les vierges, hein. Elles avaient les mêmes apparences, de loin, les 12 vierges, les 10 vierges, eh bien, avaient la même apparence, elles avaient même une lampe, hein. On pouvait pas déconnaître de loin une vierge qui avait la vie d'une qui était folle. De loin, elles sont toutes vierges. Et puis, elles se sont même toutes endormies. Alors, c'est clair. Alors, jusqu'à la fin des temps, eh bien, il n'est pas question d'une terre qui soit vraiment pure, bénie, où il n'y aurait que des vrais chrétiens. Non, de peur qu'en arrachant l'ivry, vous ne déraciniez en même temps le blé. Et c'est ce qui est arrivé, j'abrège. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, et là, vous devrez savoir qu'est-ce que c'est que les moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Ce sont les hommes, et c'est le Seigneur qui vous le dit après ça. C'est pas notre boulot à nous de dire, celui-là fait ça. Et puis, c'est pas notre boulot, parce que nous nous trompons, parce que nous connaissons pas le fond du cœur de l'homme. Le cœur est trompeur, désespérément malin par-dessus tout qu'il connaît. Jérémie, chapitre 17. Arrachez d'abord l'ivré, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans ma maison. Il y aura donc deux choses. Le blé, qui représente les vrais croyants, seront amassé dans ton grenier, et qu'est-ce que ça vous fait penser, le grenier du Père? La maison du Père, ils seront à la bonne place, hein, ils seront amassés dans la maison, et puis, ensuite, alors, arrachés, livrés, c'est Babylone, qu'on va voir dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, la fausse église qui restera, qui sera liée en bottes. Alors, évidemment, les vrais chrétiens qui ont encore des principes, étant loin, eh bien, il y aura l'unité, tout le monde sera d'accord. Hein. Tout le monde sera d'accord, on esquivera tout, l'ivré sera lié en bosse, mais ça pourrait être brûlé. Où est-ce que nous en sommes? 31. Il leur proposa une autre parabole, et c'est donc la troisième. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, c'est un tout petit grain, qu'un homme prit et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Alors, qu'est-ce que signifie ce petit grain qui a une croissance normale ou anormale, extraordinaire? Un petit grain, tout petit commencement, qui donne tout d'un coup un grand arbre. Et lisez alors tout l'Ancien Testament, et j'avais fait, pour ceux qui s'en souviennent, quand on a fait une certaine retraite, promesse relative au peuple juif pour le millénium, hein. Et je vous l'avais donné, peut-être qu'il y en a qui l'ont. Mais si vous la désirez, je pourrais vous en faire et vous la donner. Là, il y a tous les textes où il est question du règne millénaire de Christ dans l'Ancien Testament, mais ils sont réunis dans cette petite brochure que j'ai préparée pour vous. Mais j'avais pas le temps, j'étais trop bousculé. Vous avez vu combien j'étais fatigué samedi. J'étais trop bousculé pour faire encore ça, pour vous les redonner. Mais si vous les désirez, eh bien, je les ferai tout ça. Alors, on en est au verset 32. Donc, c'est la plus petite de tout doucement, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, et il devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça a commencé en petit. Souvenez-vous des commencements de Jésus. Hein. Et combien était-il à Jérusalem, quand l'église a été fondée à la Pentecôte? 120. Hein. Et puis, en 35 ans, c'était déjà à Rome. L'évangile avait voyagé, et puis c'était devenu vraiment un grand homme, un grand arbre. Et qui est-ce qu'on a commencé à y mettre pour diriger les choses? Déjà important, les oiseaux du ciel. Vous allez voir ce que le Seigneur dit. Alors voilà encore une autre parabole. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement dans l'établissement du royaume que Jésus est venu. Parce que le roi n'est pas vraiment reçu. Et il leur dit, c'est une autre parabole, le royaume des cieux est semblable, ou a été fait semblable, à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors, si vous isolez votre texte là, vous vous dites, eh bien, voilà, c'est que l'évangile va se mêler au monde complètement et transformer le monde. Une femme prit du levain et le mit dans 3 mesures de farine. Alors, les 3 mesures de farine, ce serait l'humanité. Le levain a été mis dans les 3 mesures de farine. Et toute la pâte, c'est le... Non, toute la pâte, c'est l'humanité. Toute la pâte, c'est l'humanité. La farine, c'est l'évangile. On a mis le levain dans la farine. Et alors, tout a été levé. Mais de ce pain-là, on ne veut plus manger aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le levain? C'est pour ça que je vous dis que c'est important de savoir la signification du mot. Vous ne pouvez pas trouver dans toute la Bible qu'à un chapitre où il est parlé qu'il y a toujours du mal dans le cœur de l'homme, c'est pour ça qu'on y trouve la seule fois le levain. Mais le levain, Jésus nous l'a dit, que c'était. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Le levain des Sadducéens, c'est l'incrédulité. Le levain des Hérodiens, c'est la politique. Et vous pouvez prendre toutes les expressions où vous trouvez le levain, c'est toujours un élément de corruption. Hein? Qu'est-ce que c'est un morceau de levain? C'est de la pâte corrompue. Mais vous me direz, mais si vous mangez du pain sans vin, ça n'a pas de goût. Hein? Alors c'est pour ça qu'on a tout de suite pensé, le levain, c'est ce qui va donner du goût au, à la pâte, aux choses de Dieu. Hein? Et alors, les gens vont se précipiter sur ces pâtes, hein, et en manger. Et alors, à cause de cela, on pense que le monde va se convertir. Et même, aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit, je l'ai lu encore l'autre jour, ceux qu'on appelle les charismatiques disent, il y a encore un milieu qui n'est pas vraiment touché par nos doctrines de grandiose transcendement, ce sont les assemblées des frères. Alors, nous voulons être le levain pour entrer parmi eux, pour faire lever toute la pâte. Non, bien compris. Vous comprenez? Il y a encore un milieu qui résiste. Parce que la parole nous dit qu'on ne va pas au-devant de grands miracles. On va au-devant des miracles de qui? De Satan. Vous comprenez? Mais alors, pour avoir ces gens qui résistent, on va être le levain. Alors, vous aurez de bons chrétiens, de bonnes gens qui, je n'ai pas à juger de leur salut, mais qui viendront vous dire cela pour vous entraîner et qui prendront même le levain pour, soi-disant, faire du bien. Non. Selon l'écriture, le levain est une chose corrompue. Et ce que vous lisez dans l'histoire de l'Église, c'est la corruption du christianisme. Prenez maintenant les grands bouquins, les dogmes, vous voyez qu'on a ajouté toujours quelque chose et on a tout transformé. Bien sûr qu'il y a des vérités qui restent, mais le levain est une chose mauvaise. Je regrette, vous pouvez, si vous pensez que c'est une chose bonne, je me souviens, j'avais une discussion avec un prêtre en Galilée, puis je lui dis, si tu veux manger du pain sans vin, c'est pas bon. C'est pas que ça soit bon ou que ça soit pas bon, mais qu'est-ce que c'est que le vin? Mais parce que lui, voulant rester dans son église avec la doctrine qu'il avait eu et qu'on a transmis aussi dans les foyers protestants aussi, et dans les églises protestantes, c'est ça. Le levain, ce serait l'évangile qui va changer votre vie. L'évangile, c'est le levain. Alors on vous présente le levain comme étant l'évangile. Ce n'est pas vrai. L'évangile, c'est une fausse doctrine. Et j'ai pas le temps parce que je vois que l'heure avance très vite. Vous pourriez prendre d'autres passages, mais qui correspondent, et j'espère que vous aurez encore le goût de lire la Bible, même si on n'a plus de rencontre, hein, vous lirez pour vous-même, et vous verrez au chapitre 5 des Corinthiens que le chrétien, c'est une nouvelle pâte sans levain. Et puis, quand il est parlé d'un homme corrompu, ôtez le vieux levain, n'est-ce pas? Ôtez le vieux. Mais vous voyez, c'est un manque de connaissance biblique et qui ne nous permet pas de lutter la contre. Alors, nous voulons lutter la contre parce que nous croyons que c'est l'Écriture. Alors, chapitre 5 des Corinthiens, soyons une nouvelle pâte, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes plein de levain. C'est ça votre traduction? Puisque vous êtes sans levain, donc un vrai chrétien, c'est un homme qui devrait être sans levain. Il a banni l'hypocrisie de sa vie. Hein. Il a banni l'incrédulité de sa vie. Il croit ce que Dieu dit et il accepte son autorité. Et puis alors, prenez les sacrifices de l'Ancien Testament qui sont tous sans levain. Et le jour de Pâques, avant la Pâque, c'est ce qu'on devait nettoyer, toute la maison pour enlever tout le levain qu'il pouvait y avoir. De sorte que c'est ça la vraie Pâque, le vrai sens de la parabole. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Vous voyez, alors il revient en arrière. Elle répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est qui? C'est Jésus. Le champ, c'est quoi? Le monde. Hein, vous voyez, le champ, c'est le monde. C'est clair. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Mais vous savez, le malin est un ange de lumière, hein. Et puis, il peut contrefaire pas mal les chrétiens. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du siècle, la fin de l'âge, du monde. Les moissonneurs, qui sont-ils? C'est moi qui les ai inventés. Et c'est nous qui ferons la moisson? Non. Les moissonneurs, ce sont des hommes. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Mais la fin du monde, là, il faut prendre la fin de l'âge. Ça s'est mal traduit. C'est pas la fin du monde, comme on voit dans l'Apocalypse. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, c'est donc les non-croyants, resplendiront comme quoi? Comme le soleil dans le royaume de leur père. Où seront-ils? Dans le royaume de leur père. Hein? Où il y a sa maison. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ainsi, maintenant le trésor caché. 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Alors, première interprétation qui vous paraît être la bonne, puisqu'il est parlé du royaume des cieux, mais il faudrait savoir ce que c'est ce royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Quand on a entendu la parole, c'est le trésor. Un trésor caché. J'ai la parole. Et alors, dans le champ qu'est le monde, j'ai découvert la parole. J'ai découvert, c'est vrai. Mais l'homme qui l'a trouvé la cache. Parce que dans sa propre maison, on ne veut pas qu'il y ait la Bible, peut-être. Hein? Alors, on cache la parole. Et dans la joie qu'il a, il va vendre tout ce qu'il a et il achète. Et c'est le salut. Alors le salut, il s'achète. Mais non, mais je presse. Oh, tu as raison. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Qui est l'homme qui a trouvé ce champ où il y avait un trésor? C'est Jésus. Et puis, ce trésor qu'il a trouvé, c'est ce peuple juif en particulier, qui est maintenant caché pour un temps, mais le jour viendra où le champ sera acheté. Maintenant, allons plus loin, parce qu'on est obligé d'y aller. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des ailes d'aile. Ça ne suffit pas de trouver un trésor caché, que nous pensons être le judaïsme. Il a trouvé une belle perle, une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, on nous dit que c'est, ça c'est le salut. On vend tout ce qu'on a pour saisir le salut. Et alors maintenant, on a la belle perle. La perle, ce serait le salut. Non. La perle, c'est l'Église qui va être l'épouse de l'agneau. Et ce que le Seigneur a fait, eh bien, il a tout donné pour pouvoir racheter l'Église. On est à quel verset? 47. Il a trouvé une perle de grand prix. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pas, vous savez comment se forme une perle. C'est un morceau de sable dans une huître. Et cette blessure qui est dans l'huître, eh bien, ça produit, la nature produit une couche qui couvre le sable, et puis les couches se superposent et ça donne une perle, mais qui vient d'une blessure d'un corps étranger. Et enfin, vous avez la perle. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Où est la perle de grand prix? Et les épreuves qui nous arrivent, c'est encore des couches qui viennent couvrir ce grain de sable que nous sommes, hein, parce que ce que nous sommes n'est pas rien du tout. Et le Seigneur se forme ainsi l'Église par les perles qui a acheté les perles, le Seigneur, au prix de quoi? De sa vie. Mais c'est pas ça qu'on enseigne dans beaucoup d'églises. Alors, la dernière parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. On jette le filet et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ce n'est pas de nouveau nous-mêmes qui allons faire ce travail. Ce sont les anges. Ils jetteront dans la fournaise ardente et il y aura là des pleurs et des pincements. Et alors, en finale, avez-vous compris ce que je fais? Moi, je ne sais pas ce que vous avez arrêté. Oui, répondirent-ils. Et quand vous constatez un peu la chute, vous ne direz pas bien compris. Il leur dit, c'est pourquoi elle souscrit, instruit, ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors, c'est ça. Vous avez entendu des choses anciennes, vous avez des choses nouvelles, eh bien, examinez
Et tu continues.
Alors, je passe juste encore. Vous avez fait, était bien ça? Éphésiens 5, verset 22, femme, que chacun soit soumis à son mari comme au Seigneur, etc. Et vous voyez que ici le Seigneur est comparé à un époux. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari. Marie, le chasseur est de sa femme, etc. Vous connaissez tout cela. Et puis, alors, le verset clé qui peut vous donner l'explication. Verset 32. Ce mystère est grand. Donc, la relation de l'époux et de l'épouse. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, Christ est bien considéré comme l'époux et l'Église comme l'époux. Et alors, il y a cette soumission. Nous devons être soumis à l'époux et à son enseignement. Maintenant, je vais dire encore juste une chose pour que vous puissiez dans l'Apocalypse. Je pense que vous avez bien compris que quand le Seigneur revient, verset 7, c'est quand il revient en gloire avec les siens. Hein? Puis après, vous avez donc Jean qui a la révélation de l'histoire de l'Église. Je reste fidèle à cette vision de l'Apocalypse que nous avons au verset 19. Du chapitre premier. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et les choses qui doivent arriver après toi. Alors, ce que Jean a vu, c'est la vision de qui? Du Seigneur. Chapitre premier. Il a vu le Seigneur, il l'a reconnu, c'était celui qui était sur la face montagne. Puis, les choses qui sont, qu'est-ce qui existait à ce moment-là? Les églises, il y avait eu la Pentecôte, et l'apôtre est appelé à prendre cette église qui existait à ce moment-là, et qui avait un caractère spécial. Vous les connaissez par cœur, les sept églises? Éphèse, premier amour. Smyrne, église persécutée. C'est ce qu'il y a eu dans l'histoire. Pergame, association de l'église et du monde, avec le Constantin. Et puis, on a imité tout le système politique qu'on a introduit dans l'Église. Et on a établi la hiérarchie. C'est pas les apôtres qui ont établi la hiérarchie. La hiérarchie est établie. Et ensuite, eh bien, du levain encore s'est mis dans la pâte. Et on a ajouté à l'Église, la position. Avant, c'était la parole, qui était l'autorité, puis maintenant, on a ajouté des traditions, qui étaient venues, et qui étaient des traditions d'hommes. Les grands oiseaux entraient dans l'arbre. Et alors, ces traditions, vous les trouvez dans l'église de Pergame, dans l'église de Thyatire, la troisième, écrite à l'église de Thyatire. Voici ce que dit verset 18 du chapitre 2. Il souligne d'abord des choses justes, mais verset 20, mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel. Alors, de nouveau encore, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les femmes, mais vous voyez que là où il y a l'introduction de la femme dans l'écriture, il y a quelque chose de mauvais pour la femme. Tu laisses faire la femme Jézabel. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme Jézabel? Qui était-elle? Cette femme Jézabel, rappelez-vous, la femme d'Akab, hein, une païenne, qui voulait tuer Élie. Mais tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, parce qu'on se dit maintenant prophétesse. Tout le monde se dit prophétesse. Enseignez mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et il lui a donné du temps, au moins, elle a encore ce temps, mais en tout cas jusqu'à la réforme, elle ne veut pas revenir de sa débauche. Qu'est-ce qu'on avait trouvé comme idée? Le Seigneur était un Seigneur tellement grand, tellement beau, il fallait lui faire des cathédrales, il fallait lui faire de grandes demeures. Mais où est-ce qu'il était dit cela? Dans le futur. C'est toute l'imagination de l'homme. La gloire de l'homme. Alors, il fallait de l'argent. Et comme il fallait de l'argent, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a introduit quoi? Les indulgences. Vous pouvez pas nier, ce sont des faits historiques que même les docteurs catholiques reconnaissent. On a institué les indulgences. Et puis, pour vendre les indulgences, on a institué des hommes qui ont parcouru la terre et qui venaient vous vendre les indulgences. Et si vous aimeriez pas payer tant pour que tous vos péchés soient pardonnés, si vous pouviez encore en faire quelques-uns par-dessus. On a introduit les indulgences. Hein? Ah oui, ça sera trop facile. Mais c'est comme ça qu'on avait l'argent. Jules II était presque en faillite à cause de Saint-Pierre, mais c'est pas le Seigneur qui avait demandé qu'on construise Saint-Pierre. Mais ce qui m'effraie, c'est que je vois maintenant parmi nos évangéliques, c'est ce même courant qui voudrait faire de grandes églises. Des gens vous disent, si on fait au Québec une église qui puisse contenir 10 000 personnes chrétiennes, eh bien, ça va donner un coup au gouvernement. On sera fort, mes amis. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne crains pas, petit. C'est tout le contraire. Et tout ce qu'on a jugé dans le catholicisme, on le refait. Nous sommes vraiment sur la planète des saints. Je ne dis pas que c'est catholique. On imite. On veut imiter. Pas à imiter. Et c'est le Seigneur qui t'a dit cela. Si le Seigneur t'a dit que tu devais faire quelque chose, il te donne les moyens. Lui-même. Et c'est pas ton œuvre, c'est ton œuvre. Comprenez. C'est cela que nous devons comprendre. Et le Seigneur a encore des moyens. Et il va faire encore des choses. Alors, il reproche donc, dans ces histoires de cette église, vous y voyez, et j'étais un jour à Jérusalem, j'ai fouillé toutes ces bibliothèques de Jérusalem, là, chez les Dominicains, et ce qui m'a frappé, c'est que partout, eh bien, j'ai trouvé le même enseignement. Nous croyons que les sept églises ont été choisies pour nous donner une histoire prophétique de toute l'histoire de l'Église, jusqu'à la fin. Alors, elle commence bien par le premier amour, et sais, hein, ça a beaucoup reçu. Ensuite, il y a eu les persécutions, Néron, le temps des persécutions avec Dioclétien et d'autres. Puis ensuite, il y a eu l'armistice, hein, avec le roi, qui impose le christianisme comme religion d'État. Il n'avait plus besoin de naître, de nouveau, il suffisait de naître dans un pays du christianisme. On donne le nom de chrétien. Et puis ensuite, eh bien, tu as dans cette église de Tiendam, et c'est ça qui m'encourage beaucoup, dans l'église de Thyatire, après Tiendam, il dit, il parle d'abord des œuvres. Il y a eu des œuvres formidables dans l'église catholique, et il faut le reconnaître. Mais je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et c'est ça qu'on a enseigné aux catholiques nouveaux convertis. Toutes les œuvres que, les belles œuvres qui avaient été faites dans l'histoire de l'Église, qui les concernaient. Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel qui s'est dit prophétée, que tu es d'armes, etc. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, elle ne veut pas se repentir de sa dépouille. On ne veut pas s'en dire. On a bien lu le concile, oui, qui a changé certaines choses, mais le fond n'est pas changé. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Donc, encore salut pour ceux qui sont dans l'église romaine. Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont des reins et des cœurs. Mais, Albert Sebenstadt, que je trouve magnifique, à vous, à tous les autres, à Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas reconnu, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, parce qu'on est allé très loin, hein, dans les doctrines, le purgatoire et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Et puis encore toutes ces histoires de divorce, si vous pouvez payer, vous pouvez divorcer, etc., si vous pouvez vous remarier, etc., allez demander ça à ces filles de mettre tout près des habitants, à Caroline et Fanny. Mon accord, hein? On peut faire bien des autres quand on a de l'argent. Alors, à toutes celles qui n'ont pas connu les profondeurs de la terre, comme on les appelle, et je les vois, ces femmes-là, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, je les ai vues dans certains couvents, qui aimaient le Seigneur, qui ont servi le Seigneur, qui ont été là par vocation et non pas pour oublier l'ami qui les a abandonnés. Parce qu'il ne faut pas dire que toutes les hommes sont des femmes qui ont été là parce qu'elles ne pouvaient pas se marier. Parce qu'il y a des très belles femmes parmi les hommes. Et il faut le reconnaître, elles auraient pu trouver un mari. Mais elles avaient une vocation. Et je n'ai jamais rencontré, on en a parlé avec la sœur. Pour faire le travail spirituel, il faut être des aveugles. Si on n'est pas aveugles, on ne tient pas le coup. Et que ce soit pour le catholicisme, que ce soit dans le protestantisme, il faut être aveugle. Alors, vous voyez, sur ces femmes qui n'ont pas eu, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, sur ces personnes-là, pas seulement les femmes, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Moi, je ne peux pas tout sortir. Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Donc, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il y aura des catholiques qui s'en iront au ciel? Oui. Alors, loué soit le Seigneur. À celui qui vaincra et qui gardera mes yeux jusqu'à la fin, etc. Bon. Alors, après, vous avez le chapitre 3, qui est l'église de Sardes, où l'on voit le protestantisme, qui est décrit, et c'est très drôle de ce qu'on peut dire dans les journaux, je sais que tu passes pour vivant. Hein, parce que quand il y a eu au début les réformateurs, c'était tous les catholiques qui protestaient au nom de la vérité pour qu'on revienne à quoi? À l'évangile. je sais que tu passes pour vivant, mais tu es mort. Quand on ne croit plus à la divinité de Jésus-Christ, et qu'on écrit tout cela, Jésus-Christ, oui, c'est un grand homme, mais on ne croit pas à cette divinité. Sois vigilant et affirme le reste si tu vas mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et relisez le protestantisme, entendu la parole et garde-la et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alors ce qui ne sera pas, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Vous voyez que nous sommes tous, ce que je le dis à tous, veillez, quelle que soit votre église. Vous savez, moi, mon église, c'est l'église la plus réveillée. Donc, la vôtre, c'est un cimetière. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements d'une, parce qu'ils ont conduit. Vous voyez, ça devient un témoignage individuel. Ce sont, c'est plus tout le groupe, hein, mais vous avez un groupe des gens avec qui vous vous trouvez vraiment en commune. Hein, et vous sentez que vous pouvez marcher avec eux. Vous pouvez suivre la foi, l'amour, la justice et la paix. Mais plus avec tout le monde. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, etc. Puis après, vous avez l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le Véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Qui est-ce qui a la clé? C'est Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Qu'est-ce qui caractérise une église authentique? C'est pas la puissance. On ne se glorifie pas de puissance. Mais qu'est-ce qui la caractérise? Elle garde sa parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Il y a mille façons de renier. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jusqu'au bout, elle sera ouverte. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disaient juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent, voici je les ferai se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ce qui compte, c'est de se savoir aimer du Seigneur dans le lieu où l'on trouve. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, littéralement de ma patience, ou de ma, la persévérance en moi, mais cette patience que Dieu a, que le Seigneur a, d'attendre son épouse. Il a, c'est une épouse, il attend. Et puis lui, il attend aussi. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai de l'heure, littéralement c'est deux, c'est pas à, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est sur ce texte et d'autres que l'on base la pensée que le Seigneur reviendra avant la grande détresse dont parle Daniel. Que ce sera un enlèvement. Il revient pour les siens. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Puis alors, vous avez la fin, la sixième église, qui est la Odyssée, qui est pleine d'elle-même, je suis riche, mais plus enrichi, n'ai besoin de rien, elle ne connaît pas qu'elle est aveugle, pauvre, nue. Et puis tout à coup, alors, vous avez au chapitre 4, alors on arrive à la fin ici. Après cela, je regardais, le chapitre 4, et c'est l'histoire de l'Église est terminée. Avec les choses qui sont, hein. C'est partie de l'Église. Il y a les choses qu'il a vues, chapitre 1, les choses qui sont, qui existent encore à l'Église, et puis après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte. Où? Elle était, correspondre des portes ouvertes dans le ciel, avec ces portes ouvertes dans la terre, où on est invisible et les révoltés. Mais ceux qui ont attendu le Seigneur et qui sont encore, tout à coup, la porte s'ouvrira. Et la première voix que j'avais entendue, c'est la voix de qui? Du Seigneur, hein, dans sa vie première. Comme le son d'une trompette qui me parlait, me dit, monte ici. Et puis voilà, depuis le chapitre 4, vous avez une vision non plus des choses comme on les voit de la terre, mais vous avez une vision du ciel. Le Seigneur prend les siens qui ne peuvent plus vivre sur la terre, il les prend avec l'Église, qui est un ciel, avec l'Église complète. Et puis, dans la maison du Père, eh bien, il leur montre les choses qui vont arriver sur la terre. C'est pas nécessaire de les vivre sur la terre. On les voit d'en haut avec le Seigneur jusqu'à qu'ils reviennent. Donc, nous ne pensons pas être avec l'Antichrist sur la terre quand il sera, mais nous verrons les choses d'en haut. Alors j'arrête ici et j'essaierai de terminer.